Il est 8h20. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent sur France Culture. Le journal Fiona Mogadam.
Bonjour. Le sens de l'effort manque-t-il à certains Français? C'est ce que semble penser le président de la République en raison d'une petite phrase lancée hier lors de la galette à l'Élysée et qui cause déjà des remous. Les explications à suivre dans ce journal. Emmanuel Macron qui risque d'attiser la colère des gilets jaunes alors qu'il manifeste aujourd'hui 9e acte du mouvement. D'importants moyens de sécurité seront une nouvelle fois mobilisés. On en parlera également avec votre invitée Caroline Brouet.
Tout à fait. Il vient d'entrer dans le studio, Patrice Pinozzi, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, spécialiste des questions de liberté publique. Nous parlerons de l'articulation très difficile, très délicate entre les libertés publiques et la sécurité.
Dans ce journal également, 22 jours de paralysie pour les administrations fédérales américaines. C'est le shutdown le plus long de l'histoire du pays. Pourquoi dure-t-il? Décryptage avec l'historien François Durper. La jeune Saoudienne qui voulait fuir sa famille doit arriver aujourd'hui au Canada qui doit lui accorder l'asile. Un acte qui risque de compliquer encore un peu plus les relations entre l'Arabie Saoudite et le Canada. Le groupe Renault versera dans quelques jours une prime exceptionnelle à ses salariés, jugée insuffisante par les syndicats. Les précisions dans quelques minutes. Une nouvelle manifestation des gilets jaunes aujourd'hui. C'est le 9e acte du mouvement de contestation qui a entraîné le lancement dans 3 jours d'un grand débat national. Il doit permettre à chacun de s'exprimer et de se prononcer sur les solutions pour l'avenir de la France. Un avenir qui ne se construit pas sans effort. C'est ce que croit le président de la République. Il a évoqué hier à l'Élysée, devant les maîtres boulangers réunis pour la galette des rois, le sens de l'effort dont manqueraient certains Français. Une petite phrase qui risque grandement de crisper les esprits. Élodie Forêt.
Le président a-t-il volontairement jeté de l'huile sur le feu? Hier devant les boulangers, dans une phrase un peu alambiquée, il a en tout cas fait clairement le lien entre ce manque d'effort et l'actuel mouvement des gilets jaunes.
On n'a rien dans la vie s'il n'y a pas cet effort. Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus et liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Que parfois on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, il y a des devoirs.
Une phrase bien sûr qui n'est pas passée inaperçue dès hier soir sur les réseaux sociaux. Les internautes s'en emparent ainsi que l'opposition. Avec un tel pompier pyromane, il y a des raisons d'être particulièrement inquiet, écrit l'écologiste Alexis Braud. L'insoumise Danielle Simonet dénonce elle aussi une provocation de plus.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour M. Macron, les gilets jaunes sont des feignants. Voilà ce que ça veut dire. Mais on se demande quelle est la stratégie de ce gouvernement. C'est que vraiment, la stratégie du pourrissement est poussé jusqu'au bout. Leur stratégie, c'est la stratégie d'une tension maximum.
Une nouvelle provocation, dit Danielle Simonet, qui n'augure rien de bon pour ce nouveau samedi de mobilisation. Et alors que le grand débat national, censé ramener de la cohésion, doit commencer mardi.
Élodie Forêt, avec nous en studio ce matin, Patrice Pinozzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, invité de France Culture. Donc ce matin, vous venez d'entendre cette phrase du président de la République sur la nécessité de faire des efforts pour les Français. Qu'en pensez-vous?
J'en pense que c'est évidemment maladroit. On est aujourd'hui dans un contexte de telle tension qu'il est évident que tout mot, quelle que soit la volonté avec laquelle il a été prononcé, va être surinterprété et que aujourd'hui le temps est à essayer de retrouver un peu de sérénité. Et en réalité, il y a une telle opposition, une telle escalade aujourd'hui entre le gouvernement et les gilets jaunes que l'idée, elle est globalement d'avancer vers moins de tension et de trouver des solutions. Et évidemment, cela ne va pas dans le bon sens, car c'est précisément ce que l'on a reproché à Emmanuel Macron, ses phrases, ses remarques, cette logique, ce vocabulaire un peu entrepreneurial. Et donc, oui, je pense que c'était quelque chose dont il aurait été avisé de s'abstenir. Mais cela reste l'écume des choses. Les enjeux sont ailleurs, les vrais problèmes sont ailleurs, et il est évidemment extrêmement difficile de les résoudre.
Merci Patrice Spinozzi. On reparlera de tout ça avec vous en détail juste après ce journal avec Caroline Brouet. Des manifestations sont donc prévues un peu partout en France aujourd'hui, notamment à Paris, mais aussi à Bourges où 3000 gilets jaunes ont l'intention de se rendre. Les autorités redoutent un regain de violence pour cette 9e journée de mobilisation et ont donc décidé de déployer 80 000 policiers et gendarmes dans tout le pays. Guillemette Franquet.
Pour les forces de l'ordre, ce redéploiement est a priori une procédure classique, à mettre toutefois en regard des violences et des débordements observés lors des actes précédents. Près de 6500 interpellations ces deux derniers mois en France. Pour l'acte 9 du mouvement, Beauvau ne craint pas tant le nombre de manifestants que des excès de violence. Et pour y faire face, l'intérieur a pris contact avec les préfets, mobilisé des forces supplémentaires en conséquence, avec une attention particulière sur Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et Bourges. Bourges, choisi par les Gilets jaunes, n'a pas l'habitude de recevoir des manifestations de cette ampleur. Deux escadrons de gendarmerie seront sur place, en plus des forces locales de sécurité, 500 hommes au total. Les manifestants n'auront pas accès au centre-ville. La préfète du Cher, Catherine Ferrier, a interdit toute manifestation dans le cœur historique. En revanche, les Gilets jaunes peuvent parcourir les boulevards alentours. Restent cependant d'autres incertitudes, le nombre de manifestants, la présence éventuelle de casseurs. Les forces de l'ordre n'excluent pas non plus que Bourges soit un leurre. Le 22 décembre, les Gilets jaunes avaient annoncé Versailles comme lieu de rassemblement. Ils avaient secrètement pris Montmartre pour point de rendez-vous. Une des figures du mouvement, Éric Drouet, a quant à lui appelé à manifester à Paris. Impossible donc de délaisser la capitale. 5000 policiers et gendarmes, 14 véhicules blindés de gendarmerie, ils seront présents.
Guillemette Franquet pour France Culture. France Culture, il est 8h07, suite du journal. On part aux États-Unis où le shutdown qui touche le pays est le plus long qu'a connu le pays.
Le record est battu depuis 6h ce matin. Ce shutdown entre dans son 22e jour aujourd'hui. La dernière fois que les administrations fédérales américaines ont ainsi été paralysées, c'était en 1995 sous Bill Clinton. Le shutdown avait duré 21 jours. 800 000 fonctionnaires fédéraux sont mis au chômage technique ou réquisitionnés sans être payés. Les musées, les parcs nationaux, les services de ramassage de poubelles sont notamment concernés. Hier, le président américain a déclaré qu'il ne prononcera pas si vite l'urgence nationale. Ce shutdown pourrait donc encore durer. S'il est aussi long, c'est en raison de la conception de la politique de Donald Trump, polarisée à l'extrême et sans concession, comme l'explique l'historien François Durper.
On rentre dans une nouvelle ère, l'ère Trump, dans le sens où il faut se départir de la grille de lecture habituelle, qui est laquelle? Le camp qui a la responsabilité du shutdown, en quelque sorte, se couche pour atténuer son risque politique. Là, on est sorti un peu de ça avec un Donald Trump qui n'est pas un président qui cherche à avoir 50% de l'électorat content de sa politique. Donald Trump n'a jamais eu plus de 50% de popularité dans sa vie et il ne cherche pas à élargir son électorat, il ne cherche pas à avoir l'assentiment de l'opinion. Il cherche à être le Promise Keeper President, le président qui tient ses promesses. Et donc le mur, pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Il a respecté toutes ses promesses de campagne, la Syrie, l'Iran, l'accord de Paris, la guerre commerciale à la Chine, la guerre commerciale à l'Europe, Jérusalem, etc. Mais on imagine qu'en septembre 2020, lorsqu'il sera dans un débat télévisé avec le candidat démocrate, si le candidat démocrate lui dit « Où est votre mur ?», Donald Trump devra dire deux choses. Soit il devra dire « Le mur, il existe », soit il devra dire « Le mur, il n'existe pas, mais c'est de votre faute », et devra montrer donc à l'opinion dans cette période-là, avec un shutdown long et dur, qu'il a vraiment été jusqu'au bout de ce qui était possible et que ce sont vraiment les démocrates dans leur intransigeance qui ont empêché le mur de se faire.
Et pour tout comprendre sur ce shutdown aux États-Unis, rendez-vous sur franceculture.fr avec un dossier signé Maxime Tellier. La jeune saoudienne Raaf Mohamed Al-Kounoun doit arriver aujourd'hui au Canada. Le pays a décidé de lui accorder l'asile. La jeune femme s'était barricadée dans sa chambre d'hôtel à l'aéroport de Bangkok en début de semaine pour fuir sa famille. Elle a pris l'avion vers Séoul en Corée du Sud pour rejoindre ensuite celui de Toronto au Canada. Une affaire qui risque de ne pas améliorer les relations déjà tendues entre les gouvernements saoudiens et canadiens. Pascal Guéricolas.
Même si elle a des amis en Australie, Rahaf Mohamed Al-Kounoun a choisi le Canada. Le premier ministre de ce pays a d'ailleurs annoncé officiellement qu'il l'accueillait. Et Justin Trudeau en a profité pour déclarer que le Canada comprenait l'importance d'affirmer les droits des femmes à travers le monde. Un message de condamnation à peine voilé de la façon dont l'Arabie saoudite traite ses concitoyennes. Déjà, en août dernier, les commentaires de la ministre canadienne des Affaires étrangères avaient froissé les autorités de Riyad. Chrystia Freeland avait demandé à ce que le régime libère des féministes incarcérées pour leur opinion politique. Les autorités saoudiennes avaient alors décidé d'expulser l'ambassadeur canadien du royaume, tout en demandant aux milliers d'étudiants en médecine originaires d'Arabie saoudite de quitter le Canada. Aujourd'hui installées dans ce pays, des femmes d'origine saoudienne mènent sur les médias sociaux un combat contre l'esclavage féminin dans le royaume. Ce sont elles qui ont aidé la jeune Rahaf à faire connaître sa cause aux quatre coins de la planète en lançant sa campagne sur Twitter. Ces combattantes de l'ombre ont aussi relayé son message aux journalistes et aux personnes clés pour aider la jeune fille à trouver un pays d'accueil.
Le président Joseph Kabila garde sa majorité à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. C'est ce qu'annonce un décompte effectué par l'AFP après les résultats fournis par la Commission électorale nationale indépendante. Si l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République est validée par la Cour constitutionnelle, cela signifie qu'il devra cohabiter avec un premier ministre issu de la majorité pro-Kabila. L'investiture du nouveau président est prévue le 22 janvier.
La tension monte d'un cran entre Renault et Nissan.
Le groupe français évoque une campagne de déstabilisation après des révélations sur une proche de Carlos Ghosn à la présidence de Renault qui aurait reçu 500 000 euros en tant que membre du directoire de l'alliance Renault-Nissan. Carlos Ghosn qui reste en prison au Japon, visé par deux nouvelles inculpations. En France, cette fois, le groupe Renault a annoncé hier qu'il versera une prime exceptionnelle pour ses salariés fin janvier. Selon les informations de France Bleu Normandie, cette prime varie de 300 à 500 euros en fonction des salaires des employés du groupe. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures annoncées par le président de la République sur le pouvoir d'achat le mois dernier. Une prime qui est défiscalisée jusqu'à 1000 euros. 500 euros, c'est donc loin d'être suffisant pour les syndicats. Nicolas Guermont-Pré est secrétaire général CGT à l'usine Renault de Sandouville en Normandie.
C'est la moitié du maximum que l'entreprise pouvait donner en étant défiscalisée. Ce qu'on constate, c'est que même une entreprise où le premier actionnaire est l'État français, ils ont du mal à appliquer les décisions de Monsieur Macron. Mais le vrai problème aujourd'hui des salariés, c'est le pouvoir d'achat qui est lié avec leur salaire qui touche tous les mois. Cette prime-là est que occasionnelle et on la touchera que à la fin du mois. Au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, il y aura toujours un problème de pouvoir d'achat chez Renault et dans toutes les entreprises en France. Donc le vrai nerf de la guerre, aujourd'hui, c'est le salaire.
Alors tout de même à noter que cette prime, elle va concerner aussi les intérimaires. Ça, c'est quand même un bon signe.
Alors oui, effectivement, et heureusement. Mais par contre, après, par exemple, un intérimaire qui est rentré au 1er janvier 2018 et qui aurait travaillé jusqu'au 17 décembre 2018 n'aura pas droit de toucher la prime. Parce qu'il faudra qu'il soit inscrit aux effectifs au 21 décembre 2018. Je parle pour Renault Sandouville. Donc on sait très bien aussi qu'il y a des intérimaires qui ne toucheront rien.
Le prix de l'éthique et des casseroles distribuées hier par l'association Anticor qui lutte contre la corruption. Cette année, des casseroles ont été attribuées à l'industriel Vincent Bolloré, à la présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet, une pantoufle décernée à Fleur Pellerin pour s'être reconvertie dans le privé. Mais il y a aussi donc les prix de l'éthique. Parmi les lauréates, les journalistes Martine Orange pour ses enquêtes économiques et politiques ou encore Camille Polony de la rédaction Des Jours. Des prix pour celles et ceux qui assainissent la démocratie. Et c'est très important, explique Eric Alt, le vice-président d'Anticor.
Toutes ces sept prix éthiques sont très utiles à notre combat pour une démocratie plus conforme à l'idée qu'on se fait d'une démocratie et pour une certaine éthique dans la vie publique. C'est une façon pour Anticor d'honorer, de reconnaître des personnes qui ont bien mérité la démocratie. Donc chacun, dans sa sphère de compétences, dans sa sphère d'action, a fait progresser cet enjeu. Et je voudrais aussi parler du lanceur d'alerte, Karim Ben Ali, qui est ce transporteur qui a signalé les déversements potentiellement nocifs de l'usine ArcelorMittal sur un crassier de Lorraine, de Moselle. Il a subi dans sa vie personnelle de véritables tourments. Bien qu'il soit protégé a priori au titre de la loi sur les lanceurs d'alerte, il a perdu son emploi, il est blacklisté partout. Et je pense qu'il est particulièrement important de le soutenir, il méritait d'être salué.
Éric Alt, le vice-président d'Anticor. La météo pour ce samedi, beaucoup de nuages sur la plus grande partie de la France. Les températures sont fraîches, il fait entre -4 et 9 degrés ce matin.